RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Exceptionnellement, je vous propose jusqu'à 11h une rediffusion du 31 octobre dernier consacrée à la désinformation autour des enjeux écologiques, ce qu'on appelle aussi les fake news, hein, tout simplement, très présente sur Internet, sur les réseaux sociaux et notamment sur X, ex-Twitter, qui a été classé pire réseau sur la désinformation, sur le climat. Alors comment lutter plus généralement contre les fake news et comment éduquer les plus jeunes d'entre nous aux médias et donc à l'information? Eh bien, je vous propose d'entendre cette rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard. Bonne écoute. On a le plaisir d'accueillir jusqu'à 11h deux invités. Bonjour Pierre Bonnerat.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et community manager pour l'association Lumière sur l'info, une asso composée de journalistes issus de diverses rédactions avec un objectif, et vous allez nous préciser tout cela, partager quelques ficelles du métier pour lutter contre la désinformation. Bonjour Lucille Berland.
Bonjour.
Bienvenue également à vous. Vous êtes journaliste, intervenante et cofondatrice de Fake Off, une association de journaliste, hein, là aussi essentiellement audiovisuel, engagé pour le développement de l'esprit critique et la lutte contre la désinformation de masse chez les jeunes. Peut-être un peu de pédagogie pour démarrer cette émission ensemble, hein, Pierre et Lucille. Qu'est-ce que c'est la désinformation, Lucille ?
Ah, pas évident à résumer. Alors c'est vrai, petite remarque d'emblée de définition, c'est vrai que j'aime beaucoup plus le mot désinformation déjà que le mot fake news, qui est un peu une coquille vide dans laquelle on peut mettre plein de choses, mais le mot désinformation est beaucoup plus juste. Déjà, désinformation, il induit, je sais pas si Pierre sera d'accord, mais il induit qu'il y a une volonté de désinformer, qu'il y a une intention. Alors que, par exemple, avec le concept de mésinformation, il peut y avoir une information qui est véhiculée, qui est fausse, mais qui serait due, dans ce cas-là, à une erreur, etc. Donc c'est vrai que à une erreur, à une méconnaissance, etc. Donc nous, en tant qu'association, quand on fait de l'éducation critique aux médias dans les écoles ou auprès d'autres publics, parce qu'on a des publics très variés, on insiste vraiment beaucoup sur les ressorts de la désinformation, c'est-à-dire quels sont-ils, comment les reconnaître, comment mieux s'armer pour face au piège de la désinformation, et voilà comment s'outiller en fait avec des outils d'esprit critique, pour mieux faire face à cette désinformation.
Désinformation, fake news, intox, Pierre Bonnerat, on parle de la même chose.
Ouais, alors la désinformation. En fait, tout ça, ça peut avoir plusieurs sens. Les fake news, la désinformation, etc. C'est une information peut être utilisée à mauvais escient. Une information peut être sortie de son contexte. Désinformation, fake news. Faut savoir que tout ça, ça vient d'une.
Ah, Pierre Bonnerat, je crois qu'il y a une petite coupure de la connexion. Lucille Berland, je continue avec vous. Heureusement que vous êtes là, vous me sauvez, puisque voilà, on entend cette petite coupure. Mais voilà, c'est vrai que en France, on utilise peut-être un vocabulaire assez large. Donc vous avez parlé de désinformation, on va dire que c'est votre mot préféré. Fake news, intox, infox également.
Si, ouais, un tox, un fox, c'est chouette d'avoir mis des mots aussi français sur des qui en fait disent exactement la même chose que fake news, hein, finalement. Mais fake news, c'est vrai qu'un peu dans l'imaginaire collectif, il a émergé un peu dans le débat public en France, beaucoup avec Donald Trump, avec le contexte aux États-Unis et avec QAnon, etc. Enfin, ça datait d'un peu avant, mais il a pris son envol surtout à ce moment-là. Et du coup, il est teinté, par exemple, très politiquement. Mais il y a des, je trouve moi dans l'espace public, alors que fake news, il y a des fake news dans tout un tas d'autres domaines, notamment l'écologie et plein d'autres. Et c'est pas que dans le domaine politique. Et puis, je trouve aussi que comme il n'est pas assez précis ce mot. Il ne dit pas grand-chose, une fake news. Derrière, il peut y avoir justement, par exemple, ça ne dit pas s'il y a une intention ou pas. Alors généralement, dans le terme fake, c'est plus pour dire qu'il y a une intention, mais c'est pas très clair. Alors que nous, en français, on a la distinction entre mésinformation et désinformation. Et puis voilà, enfin, il ne dit pas grand-chose en soi. C'est le début de quelque chose. C'est utile parfois pour classer, pour faire un gros groupe, mais il faut aller plus loin.
On parlera bien sûr, parce que c'est aussi l'objet de cette émission, de la désinformation autour des enjeux écologiques. Mais je pense que c'est important de démarrer en expliquant concrètement ce qu'on entend par désinformation, fake news. Et puis peut-être qu'on utilisera plusieurs termes différents, mais vous comprenez de quoi on parle ce matin. Est-ce qu'on assiste quand même, Lucille, à une prolifération de la désinformation, des fake news?
C'est extrêmement difficile à dire et il y a des études et des chiffres et des données dans tous les sens, mais personne ne dit la même chose. C'est extrêmement compliqué en réalité d'avoir une photographie. En plus, ça dépend de si on s'intéresse à la désinformation dans un champ thématique plutôt qu'un autre. À un moment donné de la vie ou du contexte, par exemple politique, d'un pays plutôt qu'un autre, si on s'intéresse à un endroit du monde plutôt qu'un autre, c'est extrêmement difficile. Mais disons que la tendance lourde, notamment depuis 10 ans et avec l'avènement des réseaux sociaux, et avec en fait cette espèce de fuite, de fragmentation de l'information où il y a encore 15 ou 20 ans, les journalistes, les entre guillemets professionnels de l'info, étaient quasiment les seuls à avoir accès à l'espace informationnel et à pouvoir produire dans l'espace public de l'information. Ça a été un bouleversement dingue qui fait que aujourd'hui n'importe qui a un smartphone et l'accès aux réseaux sociaux, ce que je dis c'est une banalité, mais sauf que c'est ce qui fait aussi qu'il y a tout un tas de désinformations et de mésinformations qui circulent partout et qui a explosé dans l'espace informationnel, c'est cet accès à la fois formidable à tous, qui est profondément démocratique et qui en même temps porte en lui les germes d'erreurs, de manipulation, de désinformation, parce que donner l'accès à l'information à tous, y compris à des gens qui ne sont pas des professionnels de l'info, donc qui ne sont pas forcément outillés pour vérifier leurs sources, vérifier leurs infos, vérifier l'authenticité d'une image, d'une photo, d'une vidéo, etc. C'est pas évident. C'est à la fois génial et à la fois c'est un risque aussi en démocratie.
Est-ce qu'on assiste à une prolifération de la désinformation en cas de crise, hein? Je parle par exemple du Covid-19 où ça avait été assez impressionnant, la guerre en Ukraine, il pourrait y avoir plein d'autres sujets, mais est-ce que c'est souvent en cas de crise que les fake news arrivent?
C'est très juste. Oui. Il y a vraiment ce qu'on appelle même des guerres informationnelles aujourd'hui, en parallèle, alors évidemment de contexte de crise géopolitique comme des guerres, comme des conflits armés, très net. On l'a vu avec l'Ukraine et la Russie, et là on le voit déjà avec Israël-Palestine. Donc il est clair que, et ça fait même partie des stratégies politiques des États ou des groupes armés qui ne sont pas forcément des États ou des groupes terroristes, ça fait partie maintenant de leur stratégie. En plus de se battre sur le front avec des armes, ils se battent en ligne dans une forme de guerre informelle à coup de, non pas d'armes là létales, d'objets physiques, mais à coup de hashtags, à coup de rumeurs, à coup de complots parfois montés de toutes pièces, à coup de modifiés par des IA. Et bien sûr, c'est devenu une arme. Et en contexte de crise, quand il y a des gros enjeux, que ce soit politique, géopolitique, c'est très net. Vous avez cité le Covid, ça a été très très net aussi dans toutes les études qui ont été faites à ce moment-là. Ça a vraiment explosé. Il y a des ressorts assez simples à comprendre, mais on n'en a pas toujours conscience. La particularité du Covid, notamment, ça a été sur deux points. C'était que déjà, on a été dans un contexte où tout le monde avait beaucoup plus de temps, parce que beaucoup de gens n'ont pas travaillé, ne travaillaient plus ou partiellement, et ont passé énormément de temps sur les réseaux sociaux, ont passé énormément de temps à chercher de l'info. Et ça, combiné à un autre facteur qui était vraiment propre aussi au Covid, que il y avait une angoisse, une émotion existentielle liée au fait qu'on parlait de notre santé, liée au fait à l'appréhension de la mort, etc. Et en fait, ça, on sait aussi que c'est un accélérateur, quelque chose qui rend exponentiel la diffusion des fake news. C'est aussi quand ça nous touche personnellement, parce que quelque part, quand ça nous touche dans nos émotions, on perd une forme de rationalité et il y a des barrières que l'on aurait habituellement en termes d'esprit critique que là, on perd dans ces contextes-là.
On a retrouvé Pierre Bonnera, hein, avec quelques soucis de connexion. J'en suis confus, Pierre, pour vous. On parlait de la prolifération des fake news et notamment en cas de crise. Sur quel sujet également on voit ces fake news? Je prends l'exemple de l'été dernier où on a vu, parce que il y a eu des études quand même qui ont été faites, mais des informations sur les questions écologiques, Pierre.
News sur absolument tous les sujets d'actualité, je veux dire, dès qu'il y a une crise, évidemment, il y a des fake news. Alors, on n'a pas oublié ce qui s'est passé depuis 3 ans avec le Covid-19, avec les confinements, le coronavirus, etc. Et évidemment, les fake news ont explosé à partir de ce moment-là. Les fake news politiques, bien sûr, les fake news sur les sujets tels que la guerre en Ukraine ou tels que ce qui se passe en ce moment entre Israël et la Palestine. Donc non, il n'y a pas de sujet où il y a plus de fake news que sur un autre. Je veux dire, si on regarde, il y a des fake news dans le sport, il y a des fake news peut-être même sur des sujets culturels, même si là j'en ai pas en tête, mais il y a des sujets fake news absolument partout et c'est dramatique en fait. C'est ce dont on s'aperçoit avec l'association. C'est que malheureusement tous les sujets sont contaminés par ce fléau, mais ça nous donne du travail en tout cas.
Et donc de l'écologie, hein, on en vient vraiment à notre sujet ce matin. Pourquoi c'est un défi de lutter contre la désinformation, Lucille Berland?
Ah, là aussi c'est hyper difficile, je trouve, de répondre. Pour moi, pour nous tous, je pense que c'est ce qui nous porte aussi, mais. En fait, quand on parle de désinformation, c'est beaucoup plus large déjà qu'un problème, j'allais dire, corporatiste ou de journaliste avec des journalistes. La désinformation, c'est un sujet, une problématique qui a des impacts sur tous les autres pans de la société et qui a des impacts démocratiques très concrets. Quand ça va jusqu'à influencer des élections, alors certes, on est sur un exemple, vous allez me dire, vous prenez un exemple extrême, mais ça va jusque-là, comme on l'a vu aux États-Unis, comme on l'a vu sur le Brexit au Royaume-Uni. Quand ça va jusqu'à, j'en sais rien, par exemple, blacklister quelqu'un, une personnalité publique, parce qu'une rumeur a été déployée sur sa personne, ou une institution, que ça va décrédibiliser une institution, ou que ça va jusqu'à faire que les gens mettent leur santé en danger, on l'a vu avec le Covid, soit en se tournant vers des faux remèdes miracles qui n'ont absolument aucune incidence, aucun bienfait, ou en se détournant des médecines traditionnelles, parce qu'ils n'ont plus confiance dans les institutions, parce que leur défiance est nourrie par des fake news. En fait, ça a des effets ultra concrets sur à peu près tous les pans de notre société. Et c'est pour ça que c'est hyper important de mener cette bataille-là. Même si on a quand même l'impression, Pierre, je ne sais pas si c'est votre impression aussi, mais d'être un peu décopé un bateau rempli d'eau avec une petite cuillère, hein, en permanence, parce qu'on est quand même là en termes de moyens, mais c'est un combat qui paraît essentiel à mener.
C'est une image qui vous parle, Pierre Bonnera?
Bien sûr, on est une petite association avec plusieurs dizaines de membres. Je crois, si je dis pas de bêtises, on est 60 ou 70 membres. Donc effectivement, on n'est pas beaucoup par rapport on est une petite goutte d'eau par rapport à cet océan de désinformation qu'est le phénomène fake news. Oui, ça me parle complètement, c'est sûr. Moi, je suis community manager, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans le métier. Je travaille pour des rédactions, des grandes rédactions. Je travaille pour TF1 LCI, je travaillais pour France Info, Europe 1. Et donc, je vois ça depuis des années. Je m'aperçois que effectivement, les fake news sont partout, dans les commentaires, sous les posts qu'on peut envoyer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, les gens ont de plus en plus de mal à croire aux journalistes. Ils ne croient plus en les sources d'information officielles, enfin en tout cas pour beaucoup. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'association aussi, c'est de faire le tour notamment des établissements scolaires, mais aussi de plein d'autres endroits, notamment pour les jeunes, mais pas que, pour aussi peut-être les réconcilier avec le métier de journaliste, pour leur apprendre ce que c'est que le journaliste, pour apprendre la trajectoire de l'information, comment on fabrique l'info. Donc voilà, il y a plein de questions auxquelles on doit répondre, et c'est bien normal, surtout en ces temps-ci.
Et la suite de cette rediffusion consacrée à la lutte contre la désinformation, c'est dans un instant après une chanson de Grand Corps Malade.
J'ai rêvé. C'était une soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard. J'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs. J'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir. Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir. Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement. J'ai regardé. Vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants. J'ai aimé. Dans la radio ça kickait, vos rappeurs du moment. Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement. Le soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves? Si on voulait, si on voulait. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait. J'ai rêvé. C'était l'hiver tôt le matin, juste avant que le jour se lève. J'ai regardé. Vos yeux endormis sereins autour de la table du petit-déj. J'ai aimé. Il y avait l'odeur du grille-pain et vous me racontiez vos rêves. De drôles d'histoires de requins et de marins qu'on enlève. C'était un matin commun, mais comme un privilège. J'ai rêvé. C'était l'été à la campagne, il y avait de belles éclaircies. J'ai regardé. C'était peut-être à la montagne, les rêves c'est pas très précis. J'ai aimé. Vous me disiez que c'était relou, cette crème solaire à s'enduire. Il y avait du bonheur partout et vous vouliez vous resservir. Je restais tout le temps avec vous pour pas vous sentir grandir. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Ils apprennent à lire, nous on vieillit sans défense. Je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas. Et si les aider à grandir nous fait perdre un peu d'innocence, je veux bien devenir adulte si c'est pour être papa. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait.
Retiens les rêves, une chanson de Grand Corps Malade sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec nos deux invités jusqu'à 11h, Pierre Bonnera, je rappelle que vous êtes journaliste et community manager pour l'association Lumière sur l'info, et puis Lucille Berland, journaliste et intervenante et cofondatrice de l'association Fake Off, à propos de la désinformation, à propos des fake news. On sent une vraie défiance envers les médias, envers les journalistes. Bah oui, Lucille Berland, c'est une réalité, hein.
Ouais, c'est vraiment une réalité, et on essaye de le prendre en compte vraiment dans notre approche, parce que on ne peut pas arriver, on ne peut plus arriver, et si tant est que c'était un jour notre but, on ne peut pas arriver face à un public quel qu'il soit, qu'on soit en centre social, à l'école, en prison, face à des citoyens d'une mairie, etc., avec nos gros sabots de « nous c'est l'information, nous c'est la vérité, On ne se trompe jamais, on fait tout bien. En fait, ça ne marche pas. Déjà, un, parce que c'est faux. On se trompe aussi, on fait des erreurs. Et il y a des raisons légitimes, il faut les reconnaître. Il y a aussi une partie des raisons des citoyens qui sont légitimes à être en défiance ou déçus ou frustrés ou en colère vis-à-vis de la manière dont les journalistes en France, même si évidemment dire les journalistes est caricatural, mais dont l'information est traitée en France. Donc en fait, il faut aussi commencer par écouter, entendre cette colère et vraiment en être le réceptacle et que ça nous nourrisse aussi pour une véritable, une vraie profonde remise en question. Mais bien sûr aussi, ce pas-là, il nous permet aussi d'être d'autant plus crédible et d'autant plus audible après quand on essaye d'expliquer que toute info ne se vaut pas et qu'une rumeur sur Twitter, maintenant X, par Mich du 9-3 n'a pas la même valeur, permettez-moi l'expression, que quelque chose qui a été produit, construit, vérifié, double-checké, triple-checké avec 15 sources par une rédaction ou par un journaliste indépendant d'investigation, j'en sais rien, qui a bossé pendant 6 mois sur son sujet. Évidemment, tout ne se vaut pas. Donc, on marche toujours sur cette espèce de ligne de crête où il faut à la fois vraiment entendre cette frustration, cette colère et la légitimité des arguments des citoyens qui sont parfois vraiment déçus par le traitement médiatique. On pourrait parler aussi du traitement médiatique d'Israël-Palestine en ce moment. Et à la fois, voilà, aussi donner des outils et remettre des choses à leur place, remettre des ordres de grandeur, remettre des fourchettes et pas mettre tout dans le même seau de tout le monde c'est de la désinformation, les journalistes sont tous pourris, vous êtes tous des vendus. Bon, évidemment, non, bien sûr, là aussi, il y a énormément de choses à remettre à leur place.
Pierre Bonnera, les journalistes en prennent pour leur grade face à cette désinformation où on remet en question beaucoup d'informations qui sont partagées dans les médias.
Oui, ceci dit, ça peut avoir aussi certaines vertus hein, de remettre en question l'information et d'aller vérifier un petit peu d'où viennent les choses. Donc nous, c'est ce qu'on essaye aussi d'apprendre à tous les élèves et à toutes les personnes qu'on voit dans les établissements scolaires entre autres, c'est aller à la source et vérifier aussi parfois par soi-même les informations quand on n'est pas sûr de quelque chose qu'on a vu sur un réseau social. Il y a aussi des façons d'aller vérifier l'info. Donc c'est ce qu'on essaye un petit peu d'apprendre. On essaye aussi par exemple de dire quelle est la différence entre un fait et une opinion, puisque parfois ce sont des choses qui se mélangent un petit peu. Par exemple, dans nos interventions, dans nos ateliers, on va montrer la photo d'un mur qui est un petit peu ébréché, qui est tout gris, qui est un peu pollué dans le fond d'un jardin. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que ce mur est abîmé, en briques, moche, fissuré, est-ce qu'il est ancien ou vintage, et donc on essaie de dire que quand on dit qu'il est moche, c'est qu'on donne son avis, mais par contre certains peuvent le trouver, oui voilà, un peu industriel, un peu, je sais pas moi, postmoderne, je ne sais pas quoi, avec des fausses fissures, et donc peuvent trouver ça plutôt joli, alors que la vérité c'est qu'il est fissuré, c'est qu'il a des briques et qu'il est présent dans le jardin. Donc on essaie d'apprendre, voilà, la différence entre ces deux choses. Et parfois sur certains médias, notamment les médias d'opinion, on peut un petit peu s'y perdre et on peut un petit peu confondre les deux.
Bonjour Patrick.
Alors bonjour Maker, bonjour aux personnes invitées. Voilà, je prends l'émission en cours et j'espère que je suis bien dans le thème. En fait, je me posais la question de savoir quelle différence il y aurait entre désinformation intentionnelle ou pas et manipulation. Parce que je regarde certaines chaînes d'infos là qui tournent en boucle, comme on dit, et je me dis qu'il y a beaucoup d'orientation quoi dans leur façon d'aborder l'actualité. Et sachant que nous avons des cerveaux un peu manipulables et que les chaînes d'infos nous manipulent, certaines en tout cas, nous manipulent sur leurs idées personnelles pour nous retourner les cerveaux, je me disais qu'on a peut-être affaire à une nouvelle forme d'information qui s'appellerait plutôt de la manipulation des cerveaux pour nous entraîner dans leurs idées, quoi, voilà, en quelque sorte. Donc, voilà,
C'est très intéressant ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu à l'antenne. Quelle est la différence entre cette désinformation et puis ce que vous appelez, Patrick, la manipulation du cerveau dans le cadre des médias? Lucille Berland, des Patrick, il y en a beaucoup. en France qui pensent exactement la même chose.
Ouais, bien sûr. Et je les comprends, et moi aussi, parfois, même en tant que journaliste, je me dis la même chose que vous, Patrick, en regardant certaines émissions. Alors, Dieu merci, il y a une grande diversité en France de médias, et les médias dont vous parlez, ou les émissions dont vous parlez, avoir en tête, je sais pas si on a le droit de les citer, mais par exemple, sur CNews, voilà, il y a, en fait, il y a tout un tas de choses pour répondre très concrètement à votre question. Pour moi, dans la désinformation, de la désinformation à la manipulation, il n'y a qu'un pas et elle se confond. Que dans la désinformation, il y a une intention de manipuler. Donc quelque part, c'est deux mots qui recoupent pas tout à fait la même chose, mais qui se recoupent en grande partie. Et donc vous avez raison que dans certains contextes, dans certains médias, avec en particulier certains présentateurs, selon la hiérarchie de l'information, les thématiques qui sont choisies, selon le choix des invités, le temps laissé aux interlocuteurs pour s'exprimer, le contexte, etc., on a vraiment l'impression en tant que spectateur, parce que moi je me mets aussi à la place des spectateurs, parfois en allumant ma télé évidemment, on a vraiment l'impression d'être manipulé et de ne pas être face à un travail qui, à mon sens, journalistiquement honnête, devrait justement ouvrir des portes, ouvrir des voies, mettre du contexte, définir, laisser le temps à l'argumentation, à la nuance, etc. Mais à l'inverse, caricature, polémise, hystérise le débat et non seulement manipule les citoyens individuellement, dans un sens ou dans un autre, et contribue au niveau collectif, je ne sais pas si c'est comme ça que vous le percevez aussi, Patrick, mais contribue au niveau collectif à mettre une ambiance délétère et à vraiment créer des failles dans notre démocratie.
Et la suite de cette rediffusion de Je pense, donc j'agis du 31 octobre dernier sur la lutte contre la désinformation, notamment autour des questions écologiques, c'est dans un instant, à tout de suite.
Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard.
Et on a plein de choses à se dire jusqu'à 11h avec Pierre Bonnera de l'association Lumière sur l'Info et puis Lucille Berland de l'association Fake Off. Pierre, sur la distinction désinformation et manipulation qui a été évoquée il y a quelques instants par Patrick, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous ?
Je peux comprendre aussi ce qu'il explique, c'est le cas de beaucoup de gens. Je pense qu'il faut aussi insister sur quelque chose, c'est savoir d'où vient l'information. Par exemple, beaucoup de gens pensent encore que TF1 est une chaîne publique. Alors, elle l'est plus, je crois, si je ne dis pas de bêtises, depuis 1987. TF1, c'est une chaîne privée, donc qui est financée par la pub et qui appartient au groupe Bouygues. Les médias publics en France, c'est France Télévisions, c'est Radio France, c'est France 24, qui sont qui ont été financés par la redevance. Voilà, et TF1, donc ça appartient au groupe Bouygues. Je ne sais pas, je pense à BFM qui appartient à Patrick Drahi et donc au propriétaire de SFR aussi. Il y a aussi ce problème de la concentration des médias, qui ceci dit est inférieur à la moyenne européenne. Hein. La moyenne européenne, c'est 81%, et c'est 75% en France, en tout cas ça détend en 2021. Donc voilà, il faut aussi dire que nos médias appartiennent parfois, et même très souvent, à de grands industriels, pour mieux savoir qui vous parle, que ce soit dans la presse, ou à la radio, ou à la télévision.
Bonjour Anne.
Bonjour Pierre, bonjour toute l'équipe. Je vous appelle de Toulouse. J'aimerais, Pierre me reconnaîtra, parce que figurez-vous que je suis auteur. Je m'appelle Marguerite Bégamou. Je suis éditée aux éditions La Cour. Je ne vais pas me faire de pub, hein, mais c'est pour qu'ils me reconnaissent. Et je suis très intéressée par l'information, parce que c'est un petit peu ma formation que de dire les choses. Et justement, j'aurais aimé poser à Pierre la différence qu'il fait, puisque sa métaphore est ce qu'il a montrait avec le mur, ça m'a beaucoup appelé cette chose, la différence qu'il fait entre l'opinion, l'idée et quelle est la vérité. La différence, la notion d'opinion par rapport à l'idée et à la vérité. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Vous avez l'idée de quelque chose. Bon, est-ce que c'est l'idée qui prédomine ou est-ce que c'est la chose qui prédomine ou est-ce qu'on est obligé d'avoir une idée de la chose parce que cette chose existe. Autrement dit, est-ce que la chose existe en dépendamment de l'idée qu'on en a ? Et c'est relatif à la vérité. Après, j'aimerais lui poser une autre question. Est-ce que je suis audible ? Est-ce que je suis compréhensible ? C'est pas trop dur ? Est-ce que c'est, par rapport à la philosophie, par rapport à la question de l'être, à la question de la vérité ?
Merci beaucoup Anne pour votre appel ce matin dans Je pense donc j'agis. C'est intéressant ça aussi Lucille Berland sur l'opinion, l'idée, la vérité, encore des distinctions.
Ouais, c'est des notions qu'on travaille beaucoup en intervention et qu'on doit toujours travailler, qu'on soit jeune, moins jeune, adulte, à tout âge de la vie, parce que c'est pas évident, ça n'a rien d'évident. La distinction qu'on fait, et j'imagine que Pierre et Lumière sur l'Info la font aussi, tout simplement, c'est en fait de revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que dans une idée, justement, ou dans une forme de vérité qu'on a l'impression d'avoir, en fait, nous, on revient toujours à qu'est-ce qui relève des faits. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève de quelque chose qui est vérifiable, prouvable, rationnel, avec des critères factuels, etc., vérifiable, et qui peut mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire, il y a une chaise en face de nous, est-ce qu'elle a 4 pieds ? Bon, si on est 10 ou 40 à la regarder, ou 300 000, on va tous dire qu'elle a 4 pieds. Sauf que, comme disait Pierre avec cette histoire de mur, l'opinion, ce sera, est-ce que cette chaise, vous la trouvez jolie, pas jolie ? Est-ce que vous voudriez la même pour chez vous ? Chacun a le droit d'avoir une opinion et d'avoir sa vérité, quelque part. Mais c'est pour ça que moi, en intervention, par exemple, à titre personnel, j'évite d'utiliser le mot « vérité » où je le définis, mais quelque part, chacun peut avoir, je dirais pas qu'il y a une vérité, chacun peut quelque part avoir sa vérité, mais par contre, il y a des faits indiscutables, prouvés, prouvables, parfois qu'on n'arrive pas à prouver, donc dans ce cas-là, c'est des faits avec des points d'interrogation, mais, et d'un côté, et de l'autre, des opinions, et chacun a le droit de les avoir, ok, mais ils n'ont pas la même valeur que ces faits, et ça ne peut pas être un socle commun de discussion, ces opinions, ça peut être des choses intéressantes dont on discute, mais le socle commun de rationalité et qui fait société dans une démocratie, c'est les faits. Et si, si on n'est pas d'accord sur les faits, c'est là que ça craquelle aussi la démocratie.
Pierre Bonnera, justement, sur cette distinction entre l'opinion, l'idée, et puis je rejoins aussi tout à l'heure ce que disait Patrick, la manipulation, la désinformation. Ce qu'on retient dans tout ce que vous dites, c'est que ça s'apprend peut-être, ça s'apprend de distinguer tout ça. Et c'est ce que vous faites mutuellement, Lucille, vous dans l'association Fake Off, et Pierre Bonnera, vous dans l'association Lumière Lumière sur l'info, pardon. Avec un objectif, c'est d'aller dans les écoles et d'aller en parler avec les jeunes.
C'est ce qu'on fait depuis la création de l'association. Et donc, on parcourt un petit peu la France. Alors, on est beaucoup en région parisienne pour l'instant et on a vocation à se déployer un petit peu partout. Par exemple, on est très heureux d'avoir signé une sorte de partenariat avec le département du Val d'Oise depuis quelques jours, et donc là cette année on va beaucoup aller dans le Val d'Oise dans pas mal d'établissements. Forcément c'est pas inné, l'éducation l'éducation aux médias et à l'information, c'est quelque chose de très important, ça se fait depuis des années. On essaye aussi de le faire, nous, parce qu'on est journaliste, parce qu'on connaît très bien le métier, ça fait des années qu'on est dedans. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un expert ou qu'un journaliste pour venir apprendre son métier, pour venir témoigner. C'est ce qu'on essaie de faire aussi, parce qu'on a un concours qui s'appelle le concours Tromito, qui est décliné de notre chaîne YouTube qui s'appelle Tromito, qu'on a lancé aussi il y a quelques années. C'est un concours qui est destiné aux 11-25 ans, tous les établissements scolaires peuvent y participer, toutes les classes, mais aussi les jeunes peuvent y participer par eux-mêmes. Il faut faire une vidéo de moins de 3 minutes, entre 2 et 3 minutes, et la poster sur notre site pour où on débunk une fake news. C'est la première saison de ce concours et donc à la fin de l'année, il y aura un ou plusieurs gagnants qui seront désignés par un jury d'experts qui auront fait la meilleure vidéo contre les fake news. Donc voilà, c'est par tout un tas de choses en fait qu'on essaye de faire ça. On a aussi la chaîne YouTube Tromito qui est animée par deux jeunes qui s'appellent Scotty et Malissa et qui essayent de débunker les rumeurs, les fake news, de parler des grandes tendances. C'est sur des sujets très larges. Par exemple, cette semaine, on sort une vidéo sur un sport qui s'appelle le MMA. Et on parle de tout ce qu'on peut dire dessus, de tous les fantasmes qu'il peut y avoir. On a fait aussi des vidéos sur les religions, sur les juifs, sur les francs-maçons, toutes les exagérations qu'il peut y avoir sur tout un tas de choses, tout un tas de rumeurs, et je pense que c'est très utile de montrer ça au plus grand nombre, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire.
Le concours Trop Mytho, à destination des jeunes entre 11 et 25 ans, à retrouver sur le site Lumière au pluriel, .info, comme le nom de l'association, Lumière sur l'info. Bonjour Nicole.
Oui, bonjour Melchior, bonjour messieurs, mesdames. Je voulais dire que pour l'information, moi je pense qu'il y a des auditeurs, téléspectateurs qui ont des certitudes, à juste raison bien sûr, on est tous un petit peu dans ce cas-là, des certitudes, des a priori, et qui écoutent les informations ou les voient ou les lisent sans vouloir être trop dérangés par une information inquiétante, etc., pour ne pas, pour ménager un confort psychologique, intellectuel, voilà. Donc, et alors il y a des médias, quels qu'ils soient, qui jouent quand même aussi qui jouent de ce jeu-là aussi. Et donc, et je pense alors que le manque d'informations ou des informations graves qui sont tues par ces mêmes médias sont aussi pour moi de la manipulation et voire des fake news, parce que c'est les mensonges par omission, c'est aussi un mensonge. Voilà, et je pense que, voilà, c'est mon opinion.
Vous avez un exemple Vous avez un exemple, Nicole?
Ah ben, beaucoup, beaucoup. hélas, trop, parce que les médias qui agitent, disons, soi-disant le chiffon rouge, etc., il y a déjà quelque temps, l'actualité confirme ces informations. Alors, je trouve qu'il faut aussi, pour les auditeurs, spectateurs, je pense que c'est aussi un manque d'esprit critique et de recherche de vérité. Voilà.
Oui, mais est-ce que vous avez un exemple, Nicole, de vérité, comme vous dites, qui sont tues par d'autres chaînes?
Oh ben, c'est trop. Ben, c'est un petit peu long, là. Mais ça paraît évident. Moi, je lis.
Oui, mais ça paraît évident pour vous? Ça paraît évident.
C'est dénoncé. C'est dénoncé quand même, oui, c'est dénoncé. Voilà, donc c'est mon appréciation aussi. Hélas, c'est dénoncé, parce que si...
Mais c'est dénoncé par qui? Pardon, j'essaie de comprendre ce que vous dites,
dénoncé,
Nicole.
C'est dénoncé aussi par des gens que je peux rencontrer, etc. Il y a des informations très indépendantes, très importantes qui ne sont pas dévoilées. Alors par intérêt ou parce que c'est dérangeant pour les instances, quelles qu'elles soient.
Merci Nicole. Merci d'avoir apporté votre témoignage ce matin dans Je pense donc j'agis. Alors sans exemple, c'est un peu dur de comprendre ce que vous essayez de nous dire, surtout des informations qui sont tues par des médias. Je sais qu'en tant que journaliste, on n'aime pas trop entendre ce genre de choses parce que c'est pas l'objet des médias de taire des informations, et loin s'en faut. Lucille Berland, peut-être une réaction?
Oui, alors deux petites choses. C'est intéressant ce que dit Nicole. Alors, deux petites choses. D'un côté, nous, c'est vrai que c'est difficile de travailler. Là, par exemple, c'est difficile pour nous de vous répondre, Nicole, parce que on peut pas répondre concrètement là parce qu'on ne sait pas trop sur quelles thématiques, sur quels exemples, sur quels sujets. Est-ce que vous parlez du Covid, de la géopolitique? Est-ce que vous parlez? Donc, c'est difficile pour nous, là, d'identifier, par exemple, vos sources ou etc. Là, nous, ce qu'on ferait à Fake Off, par exemple, c'est que on tirerait les ficelles avec vous, on essaierait de mener l'enquête avec vous, on irait questionner, interroger vos sources, on irait penser contre vous-même et penser contre nous-mêmes et essayer d'aller chercher des preuves, tout simplement, de peut-être une contre-vérité qui serait tue, etc. Mais donc, à la fois, d'un côté, il faut quand même, pour se lancer dans une enquête, avoir un certain degré de pistes et d'hypothèses et un faisceau de débuts de preuves et de sources et de témoignages qui se recoupent. Sinon, on peut pas partir sur tout ce qui part, toutes les rumeurs qui fusent un peu partout tout le temps. Et à la fois, vous avez raison de dire que dans certains cas, à titre personnel, moi je suis journaliste d'investigation, et donc on voit aussi que sur certains sujets, oui, des vérités sont parfois tues parce qu'il y a des intérêts financiers, parce qu'il y a des intérêts politiques, et que donc certaines personnes, certaines personnalités politiques ou certains groupes ou entreprises, parfois mettent des bâtons à ce qu'une information sorte. Mais dans ce cas-là, nous, quand on en fait un documentaire ou une enquête, par exemple, on passe 6 mois, 1 an dessus, et on fait travailler énormément d'équipes, et on apporte toutes les preuves très solides de ce qu'on annonce.
Mais quand vous dites justement des informations qui sont tues ou des vérités, elles sont tues par qui? Par des personnes, des entreprises ou par les médias?
Alors non, exactement, comme vous dites, merci de faire la distinction, vous avez raison. Non, par ceux qui ont intérêt à ce qu'elles soient tues, c'est-à-dire quand on travaille par exemple sur le monde de l'entreprise, sur des gros cas de pollution ou des cas de corruption ou des cas d'enfreinte aux droits sociaux ou des entreprises qui par exemple font travailler des enfants à l'autre bout du monde, etc. et qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que ça se sache. Ils nous mettent des bâtons dans les roues, nous, journalistes d'investigation, à ce qu'on puisse révéler ces choses-là. Et oui, bien sûr, certains groupes, entreprises ou personnalités politiques qui auraient fait, j'en sais rien, aussi de la corruption ou des choses comme ça, n'ont pas d'intérêt à ce que ça sorte. Donc, mettre des bâtons dans les roues. Et ça arrive aussi. Mais c'est le rôle des journalistes d'investigation, là, et du service public, et des médias indépendants aussi, en tout cas, d'aller là-dessus. Mais c'est vrai que, voilà, on est toujours un peu... La ligne de crête, là aussi, est un peu délicate parce que on peut pas dire que tout est complot, bien sûr que non, puisque on dit beaucoup de choses, on révèle beaucoup de choses dans ces émissions aussi d'investigation ou dans les articles de la presse indépendante ou ailleurs. Donc, on fait déjà une grande partie de travail quand on nous dit oui, mais vous êtes tous un peu pourris et vous ne faites pas votre boulot. Bah, en fait, on fait une partie du boulot, donc faut quand même diversifier les sources. Mais
alors ouais. Là, vous avez utilisé ce terme de complot. Je suis quasiment sûr que je vais recevoir une flopée de mails dans quelques minutes par rapport à ce sujet. Est-ce que c'est lié quand même, Pierre Bonnera, ce qu'on appelle le complotisme et la désinformation?
Déjà, je voudrais compléter ce que vient de dire ma collègue. C'est que aussi, il faut savoir qu'informer, c'est faire des choix. On peut pas tout mettre dans un journal télé qui va durer 30 ou 40 minutes, dans un journal papier qui va faire une trentaine de pages. Il y a aussi le respect des lignes éditoriales, il y a aussi tout un tas de contraintes techniques qui font que on peut pas donner toutes les informations. On essaie d'être le plus complet possible sur les informations qu'on choisit, mais on peut pas non plus donner toutes les informations du monde. Dites-vous qu'à l'AFP, à l'agence France Presse, il y a des dépêches qui tombent, toutes les 15 ou 20 secondes. Mmh. Donc, on pourrait pas tout dire, ce serait humainement impossible. Donc, il y a ça aussi, il y a cette notion-là à prendre en compte. Pardon, j'ai pas bien entendu votre question.
Ma question sur le complotisme. Est-ce qu'on peut lier complotisme et désinformation?
Oui, je pense que les complotistes vont désinformer parce que c'est dans leur intérêt. Ça peut être dans leur intérêt financier, par exemple, pour attirer des gens sur leur site internet ou pour faire vendre des abonnements à je ne sais quoi. Les complotistes essayent aussi de créer leurs petits médias, de créer leur site internet, leur page, etc. Donc on peut lier tout à fait ça, oui.
On va accueillir André à Bruxelles. Bonjour André.
Oui, bonjour. C'est curieux que je trouve super votre émission. C'est la première fois sur ce sujet-là que j'ai quelque chose, j'entends quelque chose de bien. Ah. Parce que vous n'avez pas vraiment envisagé la question jusqu'à présent. Alors j'ai la RTBF qui sont, j'aurais dire, des complotistophobes. Je ne sais plus le mot, mais enfin, incorrigible, c'est ça. Sur la question. Moi, je ne peux pas dialoguer là-dedans. Donc, moi, je suis interpellé par des événements à ce niveau-là qui sont passés, sur lesquels il y a des taches d'ombre où on ne dit pas certaines choses. Ça a commencé avec les attentats du 11 septembre 2001. Et puis, maintenant, il y a tout un défilé, Covid, et puis, l'Ukraine, et puis, la question aussi de l'éducation sexuelle à l'école. Enfin, j'en passe, mais bon, j'entends. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites correctement, par l'RTBF notamment, mais c'est vrai que de l'autre côté aussi, on raconte des conneries, comme j'en vous dis ça, comme ça. Donc, moi, j'essaye un peu de voir les choses aussi maintenant de manière plus méta. Et ce qui est intéressant à ce sujet-là, d'abord, les complots, ça existe bel et bien. Ça, ce qui est reconnu, par exemple, c'est qu'en Amérique latine, il y a eu des coups d'État ou d'autres tentatives d'à peu près tous les 9 ans pour déstabiliser ou réussir à avoir un coup d'État dans les régimes dits de gauche. On pourrait dire ça comme ça.
C'est
intéressant, il y a un article de la revue Nexus qui a été publié à propos de un peu du début de ça, de la naissance de l'expression théorie du complot. Il paraît que ça date du côté de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy, où il y a toute une tache d'ombre là-dessus qui indique que, ça m'a indiqué que c'est la CIA, c'est ça le principal auteur de ce meurtre d'un président, pas loin de ses élections. Justement, et ça a été un peu caché. Sérieusement, l'RTBF a plutôt un rôle positif parce que ils font une émission là-dessus, en plusieurs séries, et là, j'ai l'impression que vraiment ça renforce mon sentiment d'être bien dans le complotisme, entre guillemets, pour ce sujet-là en particulier. Ça me confirme quelque part dans tout ça. Je peux dire qu'il faudrait vraiment qu'on fasse maintenant dans les médias un effort pour qu'on entende tous les points de vue sur un sujet. L'Ukraine, c'est dommage que on n'entend jamais les points de vue pro-Poutine. Il faudrait un équilibre, parce que ça n'empêche pas que moi, Poutine, pour moi, c'est pas par exemple un enfant de cœur.
On pourrait en parler des heures, André. Je crois qu'André ne m'entend pas, en fait. Vous m'entendez ou pas, André? Méfiance quand même avec la revue Nexus. Il y a beaucoup de commentaires négatifs sur cette revue, à prendre avec des pincettes, ou en tout cas ne pas hésiter aussi à multiplier les sources. Et ça, c'est peut-être une petite règle qu'on peut donner ce matin, Pierre Bonnera, quand il s'agit d'aller vérifier une information ou quand on lit une information, qu'on a des doutes. On peut très bien aller vérifier avec d'autres médias.
Ouais, bah là vous voyez, c'est formidable parce qu'on vient d'avoir la preuve par l'exemple en direct. Hein. Quand une information est donnée par quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. Bon là, je sais que c'est André de Belgique, mais ça n'est pas comme si c'était un grand média réputé comme la RTBF ou comme France Télévisions. En l'occurrence, je pense que les journalistes de la RTBF, même si moi je suis en France, donc je ne regarde pas ces chaînes-là, sont des journalistes qualifiés qui ont fait des études de journalisme et qui ont l'habitude, qui ont du métier. Et qui ont du background, qui savent traiter l'information et qui savent la restituer au plus proche de la vérité. Donc voilà, je pense qu'il faut faire confiance à ces gens. Mais oui, après il y a tout un tas de façons de vérifier l'information par soi-même. Ne serait-ce que déjà tout bêtement une petite recherche sur Google quand on voit, des informations, Emmanuel Macron est-il un reptilien, par exemple?
Est-il quoi, pardon?
On tape Emmanuel. Oui.
J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Emmanuel Macron est-il?
Est-il un reptilien, par
un
exemple?
Un reptilien.
Vous savez, d'accord. Cette fameuse rumeur. Oui. il suffit de faire quelques recherches pour voir que non, Emmanuel Macron n'est pas un reptilien, n'est pas un reptile, n'est pas un animal, mais bel et bien un être humain qui est le président de la République française. Et il y a ça sur tout un tas de choses. Donc voilà, il y a tout un tas de méthodes qui existent. Alors après, je ne sais pas si on aura le temps de les développer ici. Par exemple, sur Google Images, quand on doute d'une image, il suffit de copier-coller l'image dans Google Images par un ordinateur. Ça ne marche pas par un téléphone, mais par un ordinateur, on peut faire ça pour vérifier d'où vient une photo ou d'où vient une image. C'est quelque chose qui est très facile à faire. Il suffit d'apprendre à le faire. Ça prend même pas 30 secondes et c'est à la portée du plus grand nombre.
On a reçu un message d'Armel et qui vient compléter un peu ce qu'on a dit. Elle nous dit, il y a une façon de tordre l'information et d'orienter l'opinion en sentimentalisant les faits, en suscitant l'émotion plus que la raison. C'est une façon de manipuler, en particulier sur les questions éthiques. Ben voilà, ça peut aussi un peu compléter ce qu'on a dit tout à l'heure. Thierry nous a rejoint et Thierry, vous habitez à Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, allez-y.
Donc je disais que toutes les informations sont dévoilées, mais on n'est pas prêt à les entendre.
Ah, ben c'est intéressant ça aussi, oui.
Je pense par exemple à Marseille qui se propose pour les Jeux Olympiques et le car de Marseille a été caillassé, le car
de l'Olympique Lyonnais.
De Lyon a été caillassé, et je l'ai appris par un ami qui aime beaucoup le foot, mais malheureusement c'est inquiétant pour la suite des événements. Voilà.
Alors, qu'on comprenne bien, vous avez donc appris ça de la part d'un de vos amis. Et quel est le lien avec ce que vous avez dit, Thierry, que toutes les infos sont données, mais qu'on n'est pas prêt à les entendre?
Celles qui sont importantes. Elles sont dites par les informations. Toutes les informations sont dites, mais on n'est pas prêt à les avoir, à les écouter. C'est pour ça qu'on passe au travers de certaines informations.
Merci beaucoup Thierry pour votre témoignage ce matin dans Je pense donc j'agis. Lucille Berland, c'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant tout ce qu'on entend et c'est bien de créer ces espaces-là. Merci à vous parce que c'est très important de créer ces espaces-là où on peut dialoguer, entendre ces choses-là et apporter des réponses et voilà, entendre aussi cette frustration, cette colère, etc.
Un mot. Oui.
Oui, allez-y, pardon.
Je voulais qu'on parle de vos actions, en fait, dans l'association FECOF, parce que vous faites quand même beaucoup de choses. Et vous êtes là aussi pour en discuter ce matin dans Je pense donc que j'agis. Des actions auprès des jeunes, alors ça, on en a parlé, mais des actions auprès des adultes également. Et ça, je trouve ça très important.
Ouais, c'est très important parce qu'il peut y avoir cette idée reçue aussi. Il y a eu différents cycles, différentes phases dans l'éducation aux médias où il y a des moments où on a dit, ah, c'est plus les jeunes qui sont ultra perméables au complot et il faut axer sur eux. Et maintenant, on est peut-être plus dans une vague, mais enfin, c'est difficile à, il y a différentes tendances, mais où on dit, bah, non, mais en fait, les jeunes ont quand même un usage maintenant, notamment grâce à l'éducation aux médias, grâce à tout le travail qui est fait dans les écoles par les profs eux-mêmes et par les assos d'éducation aux médias comme Lumière sur l'Info ou nous ou d'autres,
Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément eux les plus perméables et les en fait, ils ont une forme de scepticisme aussi j'allais dire assez sain, c'est-à-dire il faut pas que ça aille trop loin, mais au sens où finalement parfois c'est les personnes de par exemple, il y a des études qui montrent de plus de 50 ans qui seraient plus perméables parce que ils ont moins l'usage des réseaux sociaux, moins l'usage d'internet, moins conscience des risques, ils ont été moins sensibilisés à ça et finalement peut-être qu'ils seraient plus perméables à ça. Donc il faut aller sur tout type de public, ce qui est un vrai obstacle pour nous, c'est que c'est difficile de, vous voyez, à l'école, on appelle ça, enfin, c'est un terme administratif, hein, mais qui, c'est un terme qui dit on a un public captif. C'est-à-dire, quand on vient dans une école, on a des élèves en face de nous qui sont là, mais qui n'ont pas choisi, entre guillemets, de venir à nous. Alors qu'avec des adultes, pour aller chercher des adultes partout, bon, bah, on peut faire des conférences dans des centres sociaux, des mairies, etc., mais ne viennent que des volontaires qui choisissent de venir et de prendre du temps pour aller. Donc, qui ont déjà un peu conscience du problème et qui sont souvent, en fait, des gens qui ont plutôt un rapport à l'information, qui est pas si problématique que ça, ou un peu, mais pas tant. Et donc, du coup, en fait, on a énormément de mal. C'est vraiment un défi, et je sais pas comment vous gérez ça aussi à Lumière sur l'Info, mais d'aller toucher ces publics-là, les publics qu'on peut entendre là, par exemple, en partie sur votre antenne ou quoi, mais qui sont parfois dans une défiance, parfois dans une colère, mais pour les entendre et dialoguer avec eux, pour un peu mieux leur expliquer les coulisses de l'info et pouvoir débattre et les outiller. Mais on a ce vrai défi-là. C'est pas évident d'aller les toucher. Ouais.
Comment vous faites, vous, Pierre Bonnera, je me tourne vers vous, hein, dans l'association Lumière sur l'Info, pour justement aller parler, peut-être pas forcément uniquement aux jeunes, mais aussi aux adultes qui, dans certains cas, pensent avoir déjà été éduqués aux médias.
Oui, alors effectivement, on parle beaucoup aux établissements scolaires, on va beaucoup dans les collèges et dans les lycées, mais pas que. On essaye aussi de s'intéresser au public adulte. Par exemple, je sais que d'ici quelques temps, on va aller faire des interventions dans des centres pénitentiaires pour aller donc parler aux personnes en prison et pour aussi les aider un petit peu à préparer leur sortie. Et pour voilà les réhabituer au monde médiatique et pour voilà discuter avec elles et entendre aussi ce qu'elles ont à dire sur les médias, sur le journalisme, etc. Et puis pour leur apprendre bah voilà ce que sont les fake news, etc. Puisque ce sont des personnes qui ont la télé, qui parfois introduisent des portables en cellule, donc qui peuvent avoir internet aussi. Donc voilà, on essaye aussi de parler à tout un tas de publics adultes. Et puis on se dit aussi que ben quand on parle aux enfants, on parle aussi aux parents par leur intermédiaire, puisqu'ils peuvent aussi dire voilà tiens, aujourd'hui il y a un monsieur qui est intervenu d'une association qui est journaliste et qui m'a dit que, et qui va raconter ce qu'il a vécu. Donc par les enfants aussi, je pense qu'on peut travailler sur les adultes, sur les parents et sur les grands-parents.
Un dernier mot, parce que ça passe très très vite, une heure, c'est terrible, ça c'est pas une fake news. Un message de Monique, je vais me tourner vers vous, Lucille. On l'a déjà dit, mais elle nous dit, mais comment reconnaître une fake news? Par quel moyen?
Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette miracle. Mais déjà, avoir conscience que ça existe, avoir conscience qu'il y a des réseaux de manipulation en ligne, que c'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que c'est forcément vrai. Ah bah oui, mais pourquoi il inventerait ça? Eh bah, il y a plein de raisons au fait d'inventer quelque chose, des raisons économiques, des raisons politiques. Il peut s'être trompé. Donc bien sûr, il faut avoir conscience de ça. Il faut toujours vérifier ses sources, il faut essayer de distinguer faits et opinions. Il faut varier ses sources, absolument, varier les différentes lignes éditoriales, varier vos sources, ne vous enfermez pas dans un biais ou dans un autre de ne croire que certaines sources plutôt que d'autres.
Et merci à Pierre Bonnera, journaliste et community manager pour l'association Lumière sur l'Info, et à Lucille Berland, journaliste et intervenante et cofondatrice de Fake Off, qui nous accompagnait dans cette émission. C'est déjà la fin de cette rediffusion de Je pense donc j'agis. Je vous souhaite une bonne journée.